Vous êtes dans le retour jusqu'à 18h. Je m'appelle Audrey Pinchot, accompagnée de Max Larouche. On a un compagnon qui s'ajoute à la discussion jusqu'à 17h. Je suis nostalgique, moi, dans ce temps-là.
Ben, on recommence.
Moi, quand c'est les dernières semaines, les derniers moments, les dernières fois, Colin, que j'aille ça. Farnell, c'est notre dernière discussion.
Ah, ben, on va essayer de pas trop faire de pré-nostalgie.
Non, mais je suis pas bonne là-dedans.
Ah,
là, moi,
c'est correct, c'est correct.
Fait que Farnell, tu te joues à nous pour la prochaine heure. Max, peut-être juste avant, il y en a de la circulation quand même, là, à cette heure-ci.
Ouais, le pont de l'île d'Orléans pour s'en venir vers Québec. Je sais pas ce qui se passe. Je pense que c'est des petits travaux qui font que c'est assez difficile actuellement. Sinon, la capitale, direction est, hauteur Robert Bourassa, un petit ralentissement. Et l'accès au pont Pierre-Laporte, direction sud, tranquillement, pas vite. Là, ça commence à être un petit peu plus tough.
Farnell, écoute, je veux pas te juger. C'est vraiment dans l'amour que je te dis ça, mais on ressent 32 en ce moment dehors. Qu'est-ce que tu fais en coton ouaté?
Moi, j'ai pas d'air clim chez nous. Alors, choix personnel.
C'est ta climat.
Moi, je décide, quand il y a une canicule, je sais que je vais être misérable une nuit, mais en dedans de 24 à 48 heures, je suis acclimaté. Alors là, présentement, mon corps, il se gère super bien à 25-26 degrés. Ça fait qu'avec l'air clim, moi, présentement, j'ai froid dans le studio, alors je suis en coton ouaté.
Hey, je pourrais pas. Chez nous, là, c'est un 17 degrés à l'année, là. Tu sais, même l'hiver, ça va arriver des fois qu'on chauffera presque pas, on laisse les
fenêtres. Attends, ton air clim, tu le mets à 17?
Absolument.
Ça, ça n'a pas de maudit bon sens.
Oui, mais l'hiver, en même temps...
Il y a une commandite d'Hydro-Québec qui s'en vient.
Je sais, là, c'est épouvantable. Mais l'hiver, en même temps, on utilise quasiment rien parce qu'on laisse ça pratiquement... Surtout dans ma chambre, pour être bien honnête, le reste de la maison, c'est peut-être plus autour de 18-19. Mais dans ma chambre, je ne suis pas capable de dormir. En haut de 20, là, j'en arrache. J'ai de la misère, je ne fais pas.
L'hiver, le chauffage tient ça à peu près 18-19. Puis l'été, l'air clim, c'était à 22, mettons. Là. 22, t'es bien, là.
Hey, moi, je suis pas bien. Moi, dans un idéal, à l'année, il ferait 18. 18 petits vents, là, je serais vraiment... je serais heureuse.
Ah, moi, tu sais, moi, je me permets l'hiver. L'hiver, je m'acclimate au froid, là. Ça fait que c'est ça, il fait 17, 18,
mais
19.
Mais tu t'ajustes, c'est donc.
Ouais, moi, je m'ajuste, ouais.
Parce qu'en ce moment, en studio, il fait 23 degrés, puis je veux juste te dire que je suis en T-shirt et moi, j'ai chaud, là.
Ouais, moi, je suis coton ouaté, je suis bien confortable, ça va bien. Coton ouaté, jeans,
pense
là,
que tu me
parfait.
Donnes chaud. Ouais. Farnell, on va jaser évidemment d'actualité. Tu es vulgarisateur d'actualité. Puis il y a quand même un gros sujet depuis hier. On le fait en nouvelle, évidemment. Pierre Poilievre qui va devoir affronter plus de 209 précisément, me semble, adversaires pour se faire réélire à Ottawa pendant l'élection partielle qui va avoir lieu le mois prochain en Alberta. C'est un nombre historique de candidats. Tellement qu'Élections Canada a dû renoncer à imprimer un bulletin. On a comme un peu changé la façon de faire pour s'adapter. C'est carrément un record, là.
Ben, ce serait un journal de deux pages, ce bulletin de vote-là.
Ça n'a pas de bon sens, là, maintenant, l'environnement, là, tu sais. Bon, résumé des événements, vous l'avez un peu, mais qu'est-ce qui se passe? Comment on est arrivé là, de 209 personnes?
Première chose à dire, c'est un mouvement qui s'organise, ça, en anglais ça s'appelle le Longest Ballot Committee, le comité du plus long bulletin de vote. C'est une organisation qui est non partisan. Là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que ça ne trompe pas de bon sens de viser Pierre Poilievre spécifiquement. C'est pas le cas. Le comité a déjà fait ce genre de mouvement-là.
Moi, je pensais que c'était le cas. Je pensais que c'était...
Non, oui. Et ça s'est déjà fait dans des élections partielles de tout azimut. Ça s'est fait contre des candidats de tous les partis. L'objectif de cette organisation-là, c'est d'aller chercher le plus de candidats possible en guise de protestation contre l'inaction de la classe politique sur le mode de scrutin. Ça, c'est quelque chose qui fait souvent parler, là, qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient qu'on ait au moins un différent mode de scrutin. Et une des façons qu'ils s'organisent, c'est un peu de démontrer l'absurdité de la chose en maximisant le nombre de candidats. Dans le but de faire réagir la classe politique comme il se passe présentement, pour démontrer que, bon, ben, quand la classe politique est personnellement affectée, quand on a un chef de parti ici qui va subir cette espèce de situation-là, ben là, soudainement, on est ouvert à parler de changer les règles pour limiter le nombre de candidats, pour limiter les candidats bidons. Mais le reste du temps, quand c'est temps de changer le mode de scrutin, là, non, c'est trop compliqué, on n'est pas capable de le faire, on a d'autres priorités. Alors, l'objectif, c'est ça. C'est sûr que présentement, ça vise une élection partielle qui est quand même elle-même historique. On parle d'un chef de parti qui n'a pas été élu à la dernière élection, qui a besoin de remporter un siège. Alors, on fait une élection partielle dans un siège qui se pose être très sécuritaire pour le Parti conservateur pour que M. Poilievre puisse rentrer au Parlement.
Mais est-ce qu'il est en sécurité au moment où on se parle?
C'est pas clair. C'est pas facile à voir parce qu'entre autres, justement, c'est cette espèce de mouvement-là qui est capable de se cristalliser autour de toute l'attention médiatique autour de cette élection partielle-là fait en sorte que c'est de plus en plus facile. Il y a de plus en plus de gens à travers le Canada qui participent. Et en même temps, ben, ça souligne qu'il y aurait peut-être des lacunes ou des imperfections, disons, dans notre système électoral actuel.
Il faut dire que c'est coutume dans une partielle comme celle-là où c'est un chef de parti qui veut entrer du côté du Parlement à Ottawa, les autres partis importants vont pas aller mettre quelqu'un dans les jambes de Pierre Poilievre.
Ou ils vont au moins, ils vont présenter quelqu'un, mais ils vont pas faire une énorme campagne.
C'est ça, exact.
C'est de bonne guerre. À ma connaissance, oui, il y a un candidat. J'ai pas vérifié vite demain. À ma connaissance, il y a des candidats des autres partis principaux qui sont dans l'élection partielle.
Mais tu mets pas des efforts pour essayer de gagner puis de...
Non, exactement. On n'est pas dans une situation comme on voit, par exemple, au niveau provincial avec Arthabaska, où on veut vraiment avoir une élection compétitive dans cette circonscription-là. Parce que, ben justement, c'est une espèce d'entente, un gentleman's agreement, si vous voulez, une entente de bonne guerre, comme de quoi on veut que le chef de l'opposition soit présent au Parlement pour pouvoir poser des questions.
Mettons qu'on part à la base, là, pour que 209 personnes puissent s'inscrire. Ça prend quoi pour se présenter, mettons, aux élections?
Ben, je pense que 209, juste pour mettre en perspective, là, c'est presque autant que députés qu'on a à Ottawa. Là. C'est un chiffre historique. C'est parce que, selon la loi électorale actuelle, la seule exigence pour être candidat officiellement, donc pour avoir son nom sur un bulletin de vote ou sur une espèce de liste de vote, de je ne sais pas à quoi ça va ressembler, il faut être citoyen canadien, il faut avoir au moins 18 ans, il faut récolter au moins 100 signatures de gens qui vivent dans la circonscription où on se présente, et il faut nommer un agent officiel. Et c'est tout. Alors, on n'est pas obligé de vivre dans la circonscription. N'importe quel citoyen à travers le Canada peut faire ça.
Il n'y a pas de montant à débourser,
mettons. Il n'y a pas de montant à débourser, il n'y a rien. Et l'idée, c'est qu'on veut évidemment que les élections soient le plus accessibles possible pour les rendre ça aussi démocratiques possible, dire n'importe qui peut participer. Mais le seuil est tellement bas qu'un groupe assez bien organisé, maintenant, peut justement commencer à multiplier les candidatures. Alors, ce qu'on fait présentement, de tous les critères, celle qui est la plus difficile... C'est l'agent officiel, parce que l'agent officiel, c'est quelqu'un dans la loi électorale qui a des responsabilités financières et qui est passable théoriquement même de prison. Alors c'est quand même, il y a des responsabilités importantes, il faut qu'il fasse un rapport. Et c'était vu comme un peu un des éléments qui limitait le sérieux, parce qu'il faut que chaque candidat ait au moins un agent officiel. Mais il n'y a rien dans la loi électorale qui empêche un agent officiel d'être l'agent officiel de plus d'un candidat.
Mais c'est ça j'allais dire, c'est pas... trop facile presque de pouvoir te présenter dans mesure où
mais il faut que ce soit facile.
C'est ça, on veut que ce soit facile. Si on veut avoir une démocratie qui est réellement accessible à tout le monde...
Il faut que ça puisse être monsieur, madame, tout le monde qui voudrait s'impliquer.
Oui, que n'importe... On se comprend que la réalité pratique, c'est que les partis politiques en mènent très large. Il y a beaucoup de place pour les appuis, l'argent, mais...
Fait que le problème, il n'est pas là.
Le problème, en tout cas, on peut regarder en long, en large là-dessus. En principe, je pense que c'est une bonne chose que ce soit très facile de se présenter aux élections. Mais après ça, est-ce qu'on veut tolérer des situations du genre où on peut avoir 200 personnes qui se présentent, 209 personnes qui se présentent dans une élection partielle, où il y en a clairement là-dessus, la très grande majorité ont aucune intention de faire campagne, aucun intérêt à se faire élire.
C'est un effort, par exemple.
Mais même les signatures, dès qu'on a trouvé 100 personnes dans la circonscription, tant qu'eux sont prêts à signer des bulletins de nomination, c'est pas obligé d'être 100 personnes différentes. Alors, c'est quand même assez facile à s'organiser là-dessus.
Je suis sur le site d'Élection Canada, dans la portion de Battle River Crowfoot en Alberta, puis t'as la liste justement des candidats où tu vois que c'est pas mal tous des indépendants, et quand tu regardes le nom de l'agent officiel pour à peu près vite de même peut-être au moins 200 des à peu près 210, c'est Thomas Suchevich, qui est la même personne qui est pour le mouvement dont tu nous parlais.
Qui va devoir se taper 200 quelques rapports financiers à
c'est
la fin de tout ça.
C'est lui qui a la job.
C'est lui qui a la job. Je l'ai fait, là. J'ai été agent officiel pour un candidat aux élections fédérales dans le passé. C'est de la job. Mais je peux comprendre que si tu sais que tu en as 200 candidats qui vont rien faire, ben remplir le même rapport 200 fois pour dire zéro dépense, ça se gère un peu mieux.
Répète-moi ça. T'as déjà essayé d'être candidat?
Non, moi, j'ai déjà été agent officiel.
OK, agent officiel.
J'ai déjà été agent officiel pour
on en parle.
Non, pour un ami qui s'est présenté aux élections. J'étais son agent officiel 2 années de suite. T'sais, c'est un rapport officiel en bonne et due forme, tous les dépenses. C'est de la job, c'est beaucoup de travail. Mais pour quelqu'un qui est prêt à faire le travail et qui est prêt à dire, ben moi, pour la cause, pour le bien de la manifestation, de la protestation qu'on veut faire, je suis prêt à le faire, ben être capable de copier-coller 200 fois le même rapport, c'est sûr que ça te sauve beaucoup de job.
La réforme du mode de scrutin, là,
qui est la demande
de ce groupe-là,
ouais. C'est-tu moi où ça se fera? Ça fait tellement longtemps qu'on en parle, puis autant au Canada qu'au Québec, autant provincial que fédéral, puis c'est tout le temps la même affaire. Les partis sont bien en faveur quand ça les avantage, ouais. Mais le problème, c'est que une réforme du mode de scrutin, c'est plus avantageux pour le parti une fois qu'il est au pouvoir.
C'est
fait
ça.
Qu'une fois qu'il est au pouvoir,
il veut plus changer.
Ça a-tu vraiment des chances de se faire un jour?
Ça, tu sais, le phénomène que tu décris est très vrai. Il y a une autre complexité là-dessus qui est même les partis qui voudraient changer le mode de scrutin parce qu'ils pensent potentiellement qu'ils pourraient être avantagés. Ben, il faut quand même faire ça d'accord avec au moins les autres partis politiques et je veux dire idéalement avec le peuple par une espèce de processus de consultation. Mais ça, c'est un autre débat. Alors, par exemple, si on regarde au fédéral, le gouvernement Trudeau avait été élu en promettant que ce serait la dernière fois qu'il y aurait une élection sous le mode de scrutin actuel, qui est le mode uninominal à un tour, first past the post en anglais. Et après ça, dans les premiers mois du gouvernement, on déposait que eux, ce qu'ils voulaient, c'était un système de scrutin préférentiel, c'est-à-dire où on note premier choix, deuxième choix, troisième choix, et on élimine les choix les moins populaires jusqu'à ce qu'on ait une majorité. Mais les autres partis voulaient un système proportionnel. Puis un système proportionnel, il y a plusieurs façons différentes de faire ça, mais essentiellement, c'est qu'au lieu de voter pour un candidat, on vote pour un parti, et en fonction du nombre de votes que le parti reçoit, le parti est capable de nommer un certain nombre de députés. Alors, chaque système vient avec ses propres problèmes et avantages des partis différents.
Ça. Mais pour nous, mettons, là, qu'est-ce qui serait le mieux
pour la population?
Présentement, ce qui est plus populaire au Québec, c'est un système proportionnel mixte. Alors, on garde le système actuel où on a des circonscriptions individuelle, où on va élire notre député selon le vote actuel.
Je pense que c'est important.
Mais on va élargir les circonscriptions pour faire plus de place pour des députés mixtes régionaux proportionnels qui, eux, vont être nommés par les partis en fonction du vote. Alors, si on habite, par exemple, à Westmount, mais on est vraiment pour le Parti québécois, ben ça peut être tentant de dire « ça sert à rien pour moi d'aller voter ». Sauf que si on sait que il y a certains sièges qui vont être réservés au Parti québécois en fonction du vote total, ben là, ça peut quand même donner un peu plus.
Ça crée un intérêt
additionnel. Et ça, c'est l'argument en faveur du vote proportionnel. Je le dis ouvertement, moi, j'aime pas tant le vote proportionnel parce que j'ai l'impression que si on donne notre vote à un parti, puis c'est le parti qui le prend pour nommer après ça un député, ce député-là, il sait pour qui il travaille. Mm. Il est là parce qu'il a été nommé par le parti. Il est pas là parce qu'il a gagné mon vote à moi.
C'est
ça que j'aime un peu moins. C'est pour ça que je suis peut-être un peu plus... J'ai un peu plus de préférence pour le système préférentiel où... On choisit en premier choix, deuxième choix, troisième choix, ce qui fait que les candidats qui tendent à être avantagés, ça va être ceux qui vont être des candidats de compromis. C'est un système qui tend à dépolariser les gens qui vont être élus, mais qui a aussi le désavantage qu'il y a beaucoup de gens qui disent si on a une idée, des idées qui dépassent vraiment ce qui est vu comme le centre, ça devient un peu plus difficile pour ces partis-là de se faire leur place.
Qu'est-ce qu'on reproche le plus au système qu'on a actuellement, mettons?
Le système qu'on a actuellement, le problème qu'on a, c'est que ça fait des distorsions régionales importantes. Je veux dire, si on regarde, par exemple, juste les dernières élections provinciales qu'on a eues, il y a, à toute fin pratique, presque le même nombre de gens qui ont voté pour le Parti conservateur qu'il y a des gens qui ont voté pour... je me reprends. Il y a presque autant de gens qui ont voté pour des candidats du Parti conservateur qu'il y a de gens qui ont voté pour des candidats du Parti libéral. C'est pas exactement vrai, là, c'était 12% contre 15%, mais on s'entend que c'est proche. Et le Parti libéral forme l'opposition officielle, le Parti conservateur n'a aucun siège. Il y a beaucoup de gens qui regardent ça, qui se disent ben, « c'est une distorsion démocratique,
ça
ne reflète pas ». C'est pas normal qu'il n'y ait pas un élu conservateur au Parlement.
Selon cette logique-là, la réponse de ceux qui sont plutôt favorables à une représentation régionale, c'est de dire « ben oui, mais on ne vote pas pour un gouvernement. Dans notre système, on vote pour l'individu qui va nous représenter à l'Assemblée nationale ou au Parlement. Mmh. Et c'est aux parlementaires, après ça, de décider qui va former le gouvernement. »
Mais encore là, tu sais, à ça, je répondrai. Je serais curieux de voir vraiment, puis il doit y avoir des chiffres qui existent là-dessus, là, mais combien votent pour le parti au-delà de l'élu. Tu sais, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent hey, « Moi, mon élu, je l'aime beaucoup, puis je suis peut-être pas un conservateur, mais moi, je lance un exemple, mettons, fédéral, Pierre Paulus, je l'aime beaucoup. »
Il y en a beaucoup que c'est le cas. Statistiquement, selon ce qu'on sait, c'est l'exception plutôt que la norme. Généralement, la plupart des gens à travers tant au Canada qu'au Québec vont voter en fonction du parti. Mais est-ce que ça veut dire que c'est ça qu'on veut encourager? Si on décide, bon, ben, on reconnaît, la plupart des gens votent pour le parti, alors on va donner le pouvoir politique au parti, puis c'est les partis qui vont décider ça va être qui les députés après. On pourrait faire ça. Je crois que ça serait peut-être passé à côté du fait que la très grande majorité des gens qui ont un très bon député, c'est des députés individuels qui détonnent, qui ressortent, qui dépassent leur ligne de parti, il n'y en a pas beaucoup, mais quand il y en a, ces gens-là sont très bien aimés. Mm-hmm. Je pense à Pascal Bérubé, par exemple. C'est un très bon exemple qui est dans une marée de gens qui ont voté pour la CAQ tout autour de lui, mais lui qui est allé gagner une majorité absolue aux dernières élections. C'est que les gens l'aiment, lui. Et j'ai l'impression que, clairement, ces gens-là se sentent très bien desservis par lui. On devrait encourager l'émergence de candidats qui sont capables d'aller se bâtir ce genre de connexion-là, je pense, avec leur propre communauté
mais
locale.
Pour moi, ce serait la base, parce qu'au moins, si t'es pas satisfait nécessairement par le parti qui gagne, ben t'as peut-être quelqu'un dans ton comté qui peut faire une certaine différence à un certain point. Là.
Oui, je suis d'accord.
Moi, j'ai plus souvent voté pour un député dans mon comté que pour un parti.
Ben moi, j'encourage tout le monde à faire exactement ça. Voter pour la personne qui va vous représenter avant le parti, parce que le parti, il n'existe pas. Là. Le parti n'est pas là pour faire autre chose qu'être, en théorie, une facilitation de coopération. Et ce serait vraiment dommage de dire, ben moi, je veux vraiment cette personne-là, mais parce qu'on maintenant on vote pour le parti, lui, il prend une ligne qui est contre le courant de son parti, parce qu'il pense que c'est ce qui est meilleur pour les gens dans sa communauté, qui se fait remplacer par un yes-man du parti. Ce serait dommage.
Tant qu'à jaser d'élection, puis qu'à refaire le monde. Y a des États aux États-Unis où quand tu vas voter, en fait, aux États-Unis, c'est souvent comme ça. Quand tu votes, t'as aussi des référendums.
Oui.
Puis là, t'as des questions. Fait que t'attends qu'à t'avoir, là, on va te poser plusieurs questions. Est-ce que tu serais pour une façon de faire comme ça au Québec? Puis ça peut être vrai, tu sais, ils pourraient le faire au municipal, au provincial, puis au fédéral, tu votes pour ton parti, mais tant qu'à t'avoir dans le où tu vas.
Tu es déjà déplacé, tu es déjà venu, tu penses déjà à ça. Ouais.
On va te poser une couple de questions. Puis tu réponds aux questions auxquelles tu veux répondre. Est-ce que tu serais en faveur d'un...
Je pense que c'est une excellente idée. C'est quelque chose qui se fait beaucoup en Californie, par exemple, avec...
Tu te sens plus impliqué, je trouve.
Tu te sens plus impliqué, mais aussi, c'est que même si, je veux dire, ça se peut là, que tu fasses un référendum sur une question politique quelconque et que plus tard, l'idée ne devient pas possible. C'est une des raisons pourquoi, par exemple, on considère que les promesses électorales ne sont jamais des engagements clairs. On ne peut jamais poursuivre un politicien pour pouvoir respecter une promesse électorale parce que ça se peut que les choses changent en cours de route et on veut donner à nos politiciens la flexibilité de s'adapter au changement.
On peut le juger.
On peut le juger. Puis l'idée, c'est le jugement ultime revient aux prochaines élections.
Exactement.
L'idée de faire des référendums, encore une fois, pour être généreux à l'argument contraire, moi, je suis totalement favorable à l'idée, mais il y a des gens qui ne le sont pas parce qu'ils disent, ben, une fois qu'on a élu quelqu'un, tu ne veux pas élire quelqu'un qui a un programme X, puis après ça, le contraindre avec un référendum qui lui impose un programme Y. Mmh. Ça cause une friction possible entre les deux. Alors, pour s'assurer que les décisions puissent se prendre, on veut s'assurer que les gens élus ne sont pas liés par quoi que ce soit d'autre.
Mais je ne suis pas d'accord.
Ben, moi non plus. Et à la limite, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on pourrait faire au moins des référendums consultatifs. C'est-à-dire, écoutez, là, il y a 83% des gens qui ont voté en faveur de telle direction du gouvernement. Je comprends que peut-être toi, l'élu, t'es peut-être pas favorable, mais en même temps d'avoir été élu, toi, on s'est prononcé clairement. Ça met une pression politique assez importante.
Ça en dit surtout long sur ce que ton monde veut, là.
Exactement. Et puis, si c'est pas ça, ça va être quoi? Ça va être les maisons de sondage qui vont jouer ce rôle-là? Je veux dire, tant qu'à...
Ben, ils font déjà. Tant qu'à moi, c'est ça qui se passe présentement. Ouais. On le sait, là, que le gouvernement a tendance des fois à prendre des décisions selon des résultats de sondage. Fait que tant qu'à ça, rendons ces résultats de sondage-là, en guillemets, officiels.
Ouais, puis encadré, et puis fait de façon qu'on peut pas trop questionner l'impartialité de la maison de sondage aussi.
Des décisions selon des sondages quand ça fait leur affaire, Max, par exemple.
Ben, parce que c'est facile de trouver un sondage qui fait ton affaire
ben oui,
aussi.
Qui donne les chiffres que tu veux bien que ça donne. Je trouve que de cette façon-là, de façon plus officielle, ça t'oblige peut-être un peu plus à écouter ce que les gens disent. Parce que moi, honnêtement, un sondage auquel on me demande de participer demain matin, j'ai l'impression que je ne change rien avec mes réponses, moi.
Ben, je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Puis une des raisons pourquoi, ouais, je pense que l'idée de, tu sais, tant qu'à les avoir là, tant qu'à demander aux gens de se présenter pour s'exprimer sur qui devrait les représenter, ben qu'on donne un mandat clair à ces gens-là en même temps, je pense que c'est une super bonne idée.
Honnêtement, moi, j'ai l'impression que ça inciterait les gens, on parlait des jeunes la semaine passée, à s'informer davantage puis avoir le goût de d'être au courant, parce que là, tu as l'impression que tu peux faire une réelle différence, tandis que là, on a un collègue, nous autres, l'après-midi, là, Denis Gravel, là, je dis, c'est pas la première fois que vous l'entendez, celle-là, là, il attend son érection politique. écoute, il nous chante ça dans les oreilles tout le temps. Et il y a des gens qui se sentent tellement pas impliqués qu'ils se déplacent pas pantoute, ils vont même pas annuler leur vote parce que pour eux, ça change rien. Peut-être que d'avoir ces questions-là, ça pourrait faire une certaine différence. Est-ce que cette élection partielle-là qui s'en vient le mois prochain en Alberta pourrait réellement nous ramener la question du mode de scrutin, ou est-ce qu'on va juste en rire puis passer à autre chose?
J'ai l'impression que fort probablement on va juste en rire, passer à autre chose, malgré que l'élection va pas exactement comme M. Poilievre l'aurait probablement voulu. Comme c'est là, j'ai l'impression que ses chances sont quand même assez bonnes. Et une fois qu'on a passé l'étape, on va passer à autre chose.
La décision de changer un peu le format de comment on va voter, de dire « faut que tu écrives le nom, même s'il y a des fautes dans le nom, si c'est assez clair que tu voulais écrire Pierre Poilievre, ça va compter. » Es-tu en faveur de ça? Je ne sais pas pourquoi on pourrait ne pas être en faveur, mais il y en a peut-être qui vont dire que ça ouvre la porte à de la tricherie, ou je ne sais pas.
Je ne sais pas si vous avez vu les bulletins de vote des autres fois où il y a eu une cinquantaine ou une soixantaine de candidats. C'était littéralement une page de journal. Là. C'était très, très gros. Puis demander aux gens de voter là-dessus, ça devient un peu ridicule. 200, ça serait un livret. Ouais. C'est pas réaliste de dire ça. Et ça devient une question de c'est quoi la solution qui a le moins de risques, le moins de problèmes associé. Je pense que si on donne des livrets de 3 ou 4 pages à tous les électeurs, le risque de mal compter un vote quand il est sur 3 pages ou 4 pages de quelqu'un qui n'est pas capable de trouver le candidat ou la candidate qui veut appuyer est beaucoup plus élevé que le risque associé à demander aux gens d'écrire le nom du candidat ou de la candidate qui veulent appuyer dans l'élection. Je comprends qu'il y a une imperfection dans les deux. C'est sûr qu'il va y avoir bien des bulletins de vote qui ont été rejetés parce qu'on n'est pas capable de lire ce qu'il y a écrit, parce que c'est tellement mal écrit qu'on n'est pas sûr si c'est la bonne personne ou non. Il va y avoir des avocats qui vont pouvoir rentrer là-dedans et contester si ça devient serré. Mais le système traditionnel actuel du bulletin de vote, je pense, vient avec plus de problèmes dans la situation actuelle que la solution qui a été proposée par Élections Canada.
Définitivement, ça va être intéressant à suivre. J'ai l'impression qu'on va en réentendre parler de cette élection partielle-là. Farnel Morissette, tu restes là?
Oui.
On revient dans quelques instants. Boulevard 101, vous êtes dans le retour jusqu'à 18h. On s'accompagne. Évidemment, il y a quoi que ce soit. Ça passe par le 88-971-1021 texto.
Le retour.
La grosse question, le droit à la déconnexion. Comment vous vivez ça? Est-ce que vous sentez que vous en avez un dans votre emploi actuellement? Est-ce que vous êtes capable de le prendre? Il y a quand même ça aussi. Avant d'en jaser, Max, il y a encore des problèmes de circulation au moment où on se parle.
Henri IV Sud, accès pour Duplessis Nord, c'est partiellement entravé par un accident. Les services d'urgence qui sont sur place. Sinon, ça a des répercussions vraisemblablement du côté du pont de Québec là, pour passer de la rive sud à la rive nord. C'est assez difficile. La 20 ouest entre Chemin des Îles et Taniata, pas mal au rouge aussi. Capitale Est entre le boulevard Neuvial et l'approche de Pierre-Bertrand, c'est au rouge. Capitale Ouest, hauteur Laurentienne, des ralentissements aussi. Est toujours difficile sur le pont de l'île d'Orléans.
Est-ce que vous avez de la misère à vous déconnecter, les gars?
Moi, je suis pas capable.
Moi, j'essaie même plus.
Ah ouais, t'as accepté, t'as abandonné.
Moi, j'utilise plus le terme équilibre ou séparation famille-travail. Moi, c'est intégration, puis c'est juste, je l'accepte. Là. Ouais.
C'est intéressant, ça, intégration.
J'aime ça, intégration. Ouais. Je suis un peu comme ça aussi. J'imagine que ça dépend aussi du type d'emploi que t'as. Puis là, j'y vais vraiment dans le jugement. Là. Je me demande des fois si je faisais un genre de 8 à 4, très encadré, avec des tâches super spécifiques, si je serais peut-être capable à ce moment-là de me déconnecter.
Ben, c'est sûr qu'il y a des jobs que tu peux te déconnecter. Ouais. Plus, mettons, puis là, je sors de... Un gars de la construction, je veux dire, si son chiffre de construction, c'est de telle heure à telle heure, lui, ça doit être rare qu'il y a bien de la job à faire sur son sel le soir. T'sais, nous autres, veut pas.
C'est dur faire du télétravail quand tu travailles sur un chantier.
C'est ça, nous autres, on voit des sujets d'actualité, on se les envoie, on parle de ça demain, on pourrait-tu parler à lui? T'sais, nous autres, c'est dans notre job.
Tu vis des affaires, on travaille tout le temps. Notes, ben oui.
Farnel, même affaire un peu, puis là, toi, t'as ton...
Mon métier
ton,
d'avocat en plus.
Ton métier d'avocat, mais ce qui est intéressant aussi, puis je suis curieux de t'entendre là-dessus, c'est que ton métier d'avocat, toi, tu travailles aux États-Unis, mais d'ici. Fait qu'en étant dans du télétravail, la notion aussi est différente là, du droit à la déconnexion. Est-ce que tu te sens obligé d'être tout le temps prêt à travailler?
Là-dessus, il y a eu un gros changement avec la pandémie. Avant la pandémie, oui, je vivais à New York, je travaillais à New York. C'est sûr que, on vivait avec nos cellulaires à la main puis on vérifiait obsessivement tous les 15 minutes. T'sais, j'allais pas voir un film sans checker mes courriels au moins 2 ou 3 fois. Je me réveillais au milieu de la nuit, je regardais mes courriels avant de me rendormir. Mais le télétravail, avec l'ampleur que ça a pris pendant la pandémie, c'est que même la notion de les heures de bureau, ça n'existe plus. Et une partie de la raison, je pense que c'est parce que pendant, justement, quand on est en télétravail, je pense qu'il y a une certaine compréhension que si tu as des choses qu'il faut que tu gères privées à 10 heures du matin, un jeudi quand tu es en télétravail, tant que ta job se fait, tant que tes équipes sont capables de te rejoindre sur quelque chose, c'est pas tant grave que ça. Alors, vu qu'on permet une place de plus à la vie personnelle sur les heures du travail, je pense qu'en retour, il y en a qui s'attendent à un peu plus de place du travail dans la vie personnelle.
Puis ça, tu vois, je saisis. Moi, je suis de celles, puis c'est peut-être pas sain, là, mais moi, je suis de celles qui travaillent la fin de semaine ou qui acceptent de recevoir des messages de collègues la fin de semaine, puis ça me dérange pas. Je vais recevoir des messages, mettons, de Max pour des idées de sujets, mais je vais répondre sur le champ, je vais envoyer du stock de mon côté aussi. Je veux dire, ça... Mais j'ai déjà été avertie. Puis j'ai compris. J'ai déjà été avertie ici, ben, entre autres.
Déjà que tu as été avertie, c'est quand même intéressant. Ça veut dire qu'il y a quand même une tentative de créer une culture où c'est comme non, quand tu déconnectes, tu déconnectes.
Mais il y a eu une genre d'une plainte, là. C'était pas la grosse affaire formelle, mais il y a quelqu'un qui a juste mentionné, tu sais, moi, puis il faut dire aussi, pour que les auditeurs comprennent, dans une station de radio, là, il y a une couple de métiers, là. Je veux dire, c'est beaucoup de départements, beaucoup, puis chaque département est très, très, très différent à ce niveau-là, ce qui fait qu'on n'a pas tous les mêmes réalités.
À ma défense, quand j'ai fait la plainte, parce qu'Audrey m'appelait à 2 heures du matin la nuit.
J'essaie de te protéger.
J'ai dit, Audrey, je peux-tu dormir?
Non, moi, je suis forte des messages vocaux, hein. Je suis forte du Messenger. Puis le point, c'était, nous autres, on fonctionne beaucoup par courriel, par Teams, parce que ça nous permet cette déconnexion-là. Y a-t-il moyen que ce soit respecté? Puis j'ai été probablement l'exemple, la personne la plus récente qui l'avait fait. Fait qu'on m'avait averti. J'avais trouvé ça intéressant. Sur le coup, insulté, parce que. Puis ça, je trouve ça intéressant à discuter aussi. Sur le coup, insulté, parce que je me disais, voyons. Moi, je suis tout le temps connecté, je suis tout le temps disponible.
Moi, je suis même, si ça ne me dérange pas, alors pourquoi ça dérangerait les autres?
Un peu, c'est égoïste dit comme ça, mais un peu du genre, hey, moi, je fais l'effort, je fais le plus d'être toujours, toujours rejoignable. C'est quoi ton problème? C'est pas sain, là. Mm-hmm. Mais ma première réflexion, ça a été ça. Bon, après 10 minutes de réflexion, je suis revenue sur la terre, là. Mais je trouve ça intéressant quand même parce que ça amène dans certaines entreprises, je sens une compétitivité par rapport à la performance, par rapport à la présence. Est-ce qu'un patron préfère justement un employé sans nécessairement l'assumer, qui va être toujours dispo, qui va toujours dire oui à un employé qui va savoir mettre ses limites?
Bien, probablement. T'sais? Je veux dire, je pense que c'est dans la nature humaine. C'est sûr qu'un patron va
préférer...
Mais
ça amène une pression.
Ben oui, ça amène une pression, puis peut-être qu'on se met soi-même, puis alors qu'elle n'est pas nécessairement là, ben, je me mets à la place d'un patron. Voyons, je vais pas être hypocrite, là. Tu me demandes, t'aimes-tu mieux... Moi, je suis un patron, là. Tu me demandes, aimes-tu mieux la personne qui considère important son droit à la déconnexion et qui ne répond pas hors des heures de travail, ou t'aimes mieux la personne qui va toujours être prête, toujours... Je vais pas dire, non, c'est vrai, c'est important, le droit à la déconnexion. Mais non, j'aime mieux la personne qui répond tout le temps, là.
Ben, c'est clair. Je pense que... même, dis plus simplement, préfères-tu quelqu'un qui te répond vite ou quelqu'un qui te répond pas vite?
Ah, qui répond vite.
Ben, c'est ça.
Puis le pire, c'est que coupable, moi, ça m'enrage. Là. Quelqu'un qui me répond pas dans 10 minutes, je suis comme, voyons, là.
Ouais.
C'est parce que ton sel, il est pas loin, on s'entend. Là. Rare les personnes aujourd'hui qui réellement mettent ça de côté. On a tous nos notifications.
Il y a ce problème avec les filles aussi, mais ça, c'est autre chose.
On en parlera la semaine prochaine.
Je suis en vacances la semaine prochaine.
C'était voulu, Max. De mon côté, j'ai décidé de fermer mon téléphone de job pour les vacances. Une première en 10 ans. J'ai toujours continué à gérer mes clients durant mes vacances les autres années, mais cette année, ils ont tous été avertis. Je leur ai donné le numéro de mon directeur. S'il y a quoi que ce soit, contactez-le. C'est une super bonne affaire, mais c'est dur aussi. Je pense qu'on a de la misère à délaisser comme
ça,
employé.
Ça dépend aussi des clients qu'on a, puis c'est quoi leurs attentes. Je veux dire, je peux vous le dire, là, dans mon domaine, dans le droit des affaires aux États-Unis, ce n'est pas une option de dire à ton client « excuse, je suis en vacances » ou « excuse, c'est le mariage de mon cousin, je ne suis pas disponible ». Il faut... S'il n'y a pas toi, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre de ton équipe qui soit prêt à répondre. Puis chaque fois que toi, tu n'es pas là, ça veut dire que quelqu'un d'autre est obligé d'en faire plus.
Est-ce que la culture est différente au Canada puis aux
très
États-Unis?
Différente, très différente, très différente. Là-dessus, ça dépend d'un domaine à l'autre. Je veux dire, je salue mes collègues en droit des affaires à Québec, à Montréal. J'ai l'impression qu'eux doivent vivre quelque chose de relativement similaire. Mais il y a quand même une norme un peu plus compréhensive de la réalité humaine de la chose. Que oui, ça te cause un tort, je dirais pas émotif, mais certainement intellectuel, toujours être obligé d'être prêt à répondre. C'est pas tant que c'est pas grand-chose, c'est juste que c'est une accumulation de petites affaires, tu sais. Souvent, on va avoir des clients qui vont dire « Hey, excuse-moi, je sais que c'est un dimanche après-midi, là, mais ça va juste te prendre 5 minutes. » Mais c'est pas vrai que ça prend juste 5 minutes. Ça, ouais. Il faut que je retourne à mon laptop, que j'ouvre, que j'arrête, que je dise à mes amis « Bon, ben, excuse, je pars. Je vais faire ça. » Oui, ça prend 5 minutes, mais après ça, bon, ben, il y a toute la paperasse après ça. Puis ça reste que c'est un 5 minutes qui va peut-être coûter une heure et demie de moments agréables avec ma famille, avec mes amis, c'est jamais juste 5 minutes.
Ou t'es pas payé, là, il y a ce petit bémol-là
aussi.
Aussi,
potentiellement, tu sais, si t'es payé un salaire annuel, c'est pas supposé dans tes tâches. Le terme « toute autre tâche connexe » n'a pas le dos si large que ça,
non,
généralement.
Non, c'est ça. Mais là, juste que je te suive, donc on est plus conciliant ici?
Plus conciliant ici, oui. Dans ce que j'ai vu, en tout cas, oui.
Ça m'épate pas, New York, on a tellement l'image en plus de tout va vite, tout le monde est branché, tout le monde est... Écoute, ça c'est mon image de film, là. Mais j'aurais... Tu m'aurais posé la question, puis je pense que j'aurais été capable de dire qu'on, même si on chiale, on l'est quand même conciliant.
Oui,
ici, Québec,
plus ici, genre, en tout cas, ça m'arrive à avoir des relations d'affaires avec des gens ici, tu sais. Puis normalement, je me dis, OK, je viens d'envoyer un courriel ou un message, ça va prendre une journée ou deux avant qu'ils me répondent. Mais quand je suis en train de gérer des situations aux États-Unis, je sais qu'en dedans de 20 minutes, j'ai au moins un accusé de réception, même si j'ai envoyé mon courriel à 4 heures du matin.
C'est fou, ça!
Oui.
Hey, les gens vont pas bien.
Depuis bientôt un an en Australie, il y a vraiment une loi qui est entrée en vigueur qui dit que c'est quelque chose qui existe, le droit à la déconnexion. Puis entre autres, ce que ça dit, c'est que les employés peuvent passer du temps avec leurs proches sans être stressés d'être obligés de répondre à des appels, à des messages. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se faire éventuellement au Québec et au Canada? Puis je sais qu'en Australie, ça avait été beaucoup critiqué en disant... Mais là, c'est parce que ça a été fait vite fait, c'est mal pensé. C'est parce que comment tu veux considérer, c'est quoi, là, j'ai plus le droit d'appeler mon employé et demander, peux-tu rentrer, quelqu'un rentre pas? Puis je sais qu'il y avait beaucoup de flou. Est-ce que c'est quelque chose qui est trop flou, le droit à la déconnexion, pour que, concrètement, il y a une loi sur le sens
un
du monde qui soit faite?
Ouais? Ouais, un encadrement juridique, c'est une bonne chose, mais je pense qu'avant ça, il faut qu'il y ait une culture qui l'accepte aussi. Parce que tu peux avoir toutes les lois au monde qui existent pour protéger les employés. Si tu existes dans une culture de travail où tu t'attends à ce que tes employés disent « Ah oui, oui, c'est correct, non, je sais que t'es pas supposé le faire, mais moi, ça passe », ben c'est que à quelque part, on vit dans un monde compétitif. Si toi puis un autre, vous êtes tous les deux dans le même travail, puis l'autre, il décide que malgré la loi, lui, il accepte de recevoir des messages à 9h du soir, toi, t'as comme pas le choix de le faire aussi.
Non, c'est ça, ça devient difficile, veux pas, là. Est-ce que c'est générationnel, culturel, structurel, toute cette histoire-là d'hyper-connexion, parce qu'on en parle depuis plusieurs années déjà, mais tu sais, le fameux texte de la presse dont je vous parlais d'entrée de jeu, on parle vraiment de la jeune génération, là.
Je pense que la jeune génération est peut-être celle qui est plus prête à dire « wow, minute ». Mais non, je...
Parce qu'en même temps, on est probablement celle qui est le plus tout le temps sur son
sel
aussi.
C'est ça, oui, c'est sûr que j'imagine mal quelqu'un qui a de la misère à envoyer un courriel, puis il y en a encore des gens de même, qui vérifient leur sel de la même façon. Peut-être aussi que cette jeune génération-là a grandi dans la culture des médias sociaux puis de l'immédiat, de l'alerte qui demande tout de suite ton attention. Peut-être que c'est plus difficile quand tu as grandi dans cette réalité-là, te dire « Ah, c'est pas grave si j'ai 28 courriels qui m'attendent, ils sont sûrement pas urgents. » T'sais, la capacité de résister aux petits chiffres en rond rouge sur ton téléphone, ça vient pas facilement à tout le monde. Puis si tu as grandi dans un monde où c'était ça, ta réalité constante, c'est peut-être plus difficile.
Mais le pire, c'est que c'est exactement ce qui est décrié. T'sais, on parle des effets concrets de cette surcharge-là, du fait d'être hyper connecté. Puis honnêtement, moi, je plaide coupable là-dessus. Là. T'sais, je dis, ah, je suis disponible, ça m'énerve. Moi, avoir des notifications, faut que je laisse mon téléphone. En fin de semaine, là, il y a une journée où j'ai laissé mon téléphone à maison.
Je sais, j'essayais de t'appeler, je répondais pas. Elle fait croire à tout le monde qu'elle est donc bien tout le temps disponible. Moi, j'essayais de travailler en fin de semaine, pas moyen de la rejoindre.
C'était une première depuis des mois. Là. D'habitude, en vacances, j'essaie de le faire plus. Là. Mais même en métal, ne pas déranger, on est niaiseux. Hein.
On le vérifie pareil.
On va voir.
Ah non, mais juste checkez-vous la prochaine fois que vous attendez au, la lumière pour le piéton. Est-ce que vous êtes capable d'attendre une lumière de piéton sans rentrer dans votre poche, sans regarder votre cellulaire? Je dis ça à tout le monde, là, tout le monde
mais
qui écoute
raison.
Aussi. Là.
Ou l'ascenseur, mettons.
Ou l'ascenseur,
l'ascenseur c'est pas
de,
long. Là.
Êtes-vous capable de prendre 3 étages en ascenseur sans checker votre téléphone?
Ça, c'est vraiment drôle parce que je me le suis fait reprocher par un monsieur sur un étage ici.
Depuis que tu m'as compté ça, je fais des cauchemars chaque soir. Puis j'ai peur de croiser ce bonhomme-là.
Hyper gentil. Non. Tellement gentil, ce monsieur-là. Pour vrai, là. On se croise souvent quand on va aux toilettes aussi. Vraiment smart. Je suis dans l'ascenseur. Il est d'une génération différente, une génération plus élevée que la mienne. Puis je suis sur mon téléphone pour aucune raison. Là. Je suis même pas sur Instagram. Je suis genre en train de checker mes courriels. Là, tu comprends? Proactivité. Là. Parce que ça aussi, on n'est pas capable, on dirait, de faire une chose à la fois. On est tellement surstimulé dans le monde actuel qu'on dirait que tu manges en regardant tes courriels puis en regardant une série Netflix. On dirait qu'il faut que ta tête soit partout en même temps. On est complètement débile. Fait que je suis dans l'ascenseur. Puis à un moment donné, il m'a lâché le commentaire. Tu sais, j'ai un commentaire sur le fait que les jeunes, c'est fou comment on a ce besoin-là. Puis c'était pas déplacé, là, c'était vraiment juste
Non, c'était
question.
Déplacé. Mêle-toi de tes affaires.
Vraiment pas. Non, mais tu vois, ça a été une prise de conscience. Je suis partie en rire. Vous avez tellement raison, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, parce qu'on n'a pas le réflexe de... Tu rentres dans l'ascenseur, t'es sur ton cell, tu regardes même pas la personne. Tu sais même pas qui est là. Tu prends pas le temps de dire bonjour, de faire
non,
un contact
pourquoi
visuel.
Pourquoi tu dirais bonjour? T'en connais pas à personne.
Parce que Max, on vit en société.
Non,
tu peux dire bonjour quand tu croises quelqu'un, comme tu dis merci quand on t'ouvre la porte en passant. On appelle ça les bonnes manières.
Oui, ça. Hey, wow, mêle pas les affaires. Je dis merci quand quelqu'un m'ouvre la porte.
Ben moi, mettons, quand je sors de l'ascenseur, j'essaie. Je suis pas une sainte, là, mais j'essaie maintenant de... Hey, bonne journée, là.
Oui, mais pourquoi on fait ça?
Ben,
t'as connais pas à personne.
C'est-tu moi, Varnel? Ou
ah non, moi aussi, je dis bonne journée. Okay, là, dire, okay, t'es pas obligé de connaître quelqu'un pour avoir un minimum de civilité dans tes interactions.
Oui, mais...
Peut-être que tu fais partie des statistiques de l'article de la presse. Dans
quand tu croises quelqu'un dans la rue, tu dis toujours bonjour? Pourquoi l'ascenseur, c'est différent?
Si vous croisez du regard, vous souriez, puis si tu
je fais un sourire. Là. Oui, je fais un sourire.
Ben, un sourire, c'est un
c'est
bonjour non-verbal.
Okay. Absolument.
Parfait.
Chaque fois que je croise quelqu'un, il y a un signe okay. de « je t'ai vu là, t'existes ».
Je suis non-verbal. Il y a un monsieur que j'ai commencé à croiser chaque jour, qu'il est dans mon horaire, que je le croise chaque jour. Lui, on se dit bonjour. Quand je m'en viens à pied, là, on se croise tout le temps. Lui, je dis bonjour. Je l'ai pas croisé ce matin. J'espère que
tu l'aurais manqué si t'étais sur ton sel tout le temps.
Imagine. Hein?
Une c'est interaction vrai. Humaine de moins. Le tissu social qui se dégrade.
Puis, je te raconte. Oh, mais c'est vrai. Mais moi, je suis une grande fervente de ça. Là, on mélange les affaires. Mais tu sais, moi, quand on parle de technologie, puis d'intelligence artificielle, puis d'où on s'en va avec la technologie. Moi, l'humain. Moi, les caisses, mettons, là, à l'épicerie automatique, là, ça me tape ses nerfs. Là. Épouvantable. Si j'ai le choix d'attendre un peu plus, puis de passer à la caisse, pour dire bonjour à la personne qui va scanner mes trucs, je vais le faire. On dirait que, je sais pas, cet échange-là humain, ce contact-là est comme tellement important, je trouve. Fait que oui, quand je marche dans la rue, quand je croise quelqu'un, je t'arrête à une lumière, puis j'ai le malheur de me retourner et regarder qui est dans le champ à côté. Si nos regards se croisent, je vais sourire. Je t'ai vu, t'existes. Dis-moi, 88-971-101, je sais pas. Je trouve ça tellement important. Donc, est-ce que vous arrivez à vous déconnecter? Je lis les textos, puis on est une couple là, à avoir bien de la misère avec ça. Là. Il y a Jeff qui nous dit « L'Ontario a présentement une loi sur la déconnexion, c'est légiféré. Pierre-Luc nous dit « Voyons, vous êtes donc bien accro à vos selles. Ça va prendre une thérapie. Vous allez transmettre ça à vos enfants plus tard en plus. »
On salue Pierre-Luc qui a envoyé ce message-là par son sel.
Si t'écoutes l'application, Pierre-Luc, on te salue également. Tu sais. Je pense que ça fait partie de notre réalité. Par contre, Pierre-Luc, je te donne un point. Moi, c'est quelque chose que je travaille dans ma tête de me dire que le moment où j'ai des enfants dans ma vie, je veux agir différemment le plus possible pour garder ce contact humain-là. Moi, juste parce que je me projette puis je me dis, j'aurais pas aimé ça, moi, qu'à table, mettons, mes parents soient sur leur téléphone en train de régler leur fin de journée.
Ben, moi, j'ai des amis qui ont eu un nouveau-né en attendant un deuxième. Et eux, ils ont décidé pas d'écran avant un certain âge, mais non seulement pas d'écran, genre on va pas montrer un écran à l'enfant, on va pas laisser l'enfant nous voir regarder un écran.
Ça, c'est brillant.
Ouais.
Ça montre l'exemple.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a de plus ironique, mettons, qu'un père, le fameux père, là. Puis là, lui, il dit à ses kids, « Non, non, wow, c'est la table, qu'est-ce que tu fais là? » Pendant ce temps-là, lui, c'est son gros iPad à la table en train de lire sa presse plus, là. Ce qui
pas
est bon
logique.
Pour Pitou devrait être bon pour Minou.
Absolument.
Là, on parle
absolument.
De questions de culture. La culture, c'est pas juste au travail qu'on l'a bâti, on l'a bâti à la maison aussi.
Absolument. Le droit à la déconnexion, est-ce que c'est un luxe ou un droit fondamental dans le monde du travail moderne? On vous pose la question 88-971-1021. Farnel! On peut être nostalgique?
Ben, maintenant, on peut être nostalgique parce que fini, maintenant, là. C'est plus de la pré-nostalgie. Là.
Tabarnouche, tabarnouche. Bon, on va certainement avoir l'occasion de se recroiser, de refaire la radio ensemble, je l'espère. Merci énormément pour les dernières semaines.
Ben, ça me fait plaisir. Merci à vous de m'inviter. C'est toujours agréable. Puis parler de grands bons sujets et de sujets un peu plus humains, c'est le fun aussi.
Vraiment. Puis vous aurez l'occasion de réentendre Farnell assurément. Ben, en fait, la décision te reviendra aussi, mais je sais qu'à Boulevard. Farnell, on t'attend. T'as pas le choix lundi prochain.
Pas le droit de déconnecter, sinon je reçois des messages textes.
T'es avec nous. Hey, merci encore.
Merci à vous, puis bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et à la prochaine.
Vous êtes à Boulevard 102.1. Un gros merci d'être là. On est ensemble jusqu'à 18h. Voici Mio à Boulevard. Voici Madness.